Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son ministère, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous reprenons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc.
Dans un premier temps, nous allons écouter la lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. Ensuite, Jean-Marc s'entretiendra avec Alain, afin d'en tirer les leçons les plus importantes.
Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient sur lui pour le toucher. Lorsque les gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et ils s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était.
Merci Janine et bienvenue à Alain. Bonjour.
Bonjour Jean-Marc et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons parlé de l'opposition des pharisiens envers Jésus. Cet acharnement contre lui était de toute évidence motivé, entre autres, par leur jalousie, car ils étaient les témoins de la popularité grandissante de Jésus auprès des foules.
Oui, et le texte lu aujourd'hui nous donne un bel aperçu du renom continuellement croissant de Jésus, car il nous dépeint les foules qui entouraient Jésus. Elles étaient devenues telles que Jésus dut monter dans une barque qui se trouvait sur le lac afin de pouvoir parler à tous ces gens.
Et ce monde qui composait ces foules venait de toutes parts.
Oui, c'est dire à quel point la renommée de Jésus s'était répandue dans tout le pays d'Israël et même au-delà. Ces gens venaient de la Galilée, la région où Jésus vivait. D'autres arrivaient de Jérusalem, une ville importante située au sud de la Galilée. Certains de Judée, la région où se trouvait Jérusalem. D'autres, enfin, avaient quitté la région de Tyr et de Sidon, située sur la côte au nord-ouest de la Galilée. Ils étaient venus de l'est, de l'autre côté de la rivière du Jourdain. Or, en ce temps-là, pour parcourir de telles distances, il fallait entreprendre à pied ou à dos d'âne des voyages de plusieurs jours.
Donc, ces gens étaient fortement motivés. Ils désiraient tellement rencontrer Jésus, tant le connaître, qu'ils étaient prêts à tout quitter pour entreprendre de longs et périlleux voyages.
Oui. Fort de leur exemple, nous pouvons nous examiner nous-mêmes et considérer ce que nous devons entreprendre pour mieux connaître Jésus. Se rendre régulièrement à l'église peut nécessiter un effort, parfois du courage, et nous demande de mettre de côté toute autre activité. Alors suivons l'exemple de ces gens venus de si loin et accomplissons tout le nécessaire pour mieux connaître Jésus, nous nourrir de ses paroles et croître en lui.
Mais Alain, expliquez-nous pourquoi ces gens venaient de si loin juste pour voir Jésus. Pourquoi cela en valait-il la peine?
La renommée de Jésus se répandait, car les gens se racontaient les miracles et tous les prodiges qu'il accomplissait. De plus, les Juifs attendaient ardemment le jour où Dieu enverrait le roi serviteur promis par les prophètes. Et beaucoup devaient se demander si Jésus était justement cet homme. Le texte lu nous apprend aussi que de nombreux malades ainsi que des personnes sous l'emprise de mauvais esprits se trouvaient dans la foule. Ces gens affligés désiraient ardemment être délivrés et guéris. Plein d'espoir, ils venaient à Jésus animés par la soif de recevoir sa guérison.
Et justement, Jésus guérissait les malades.
Oui, à leur plus grande joie. Et Jésus a compassion de tous ceux, de toutes celles qui se trouvent dans des situations apparemment sans issue. Il déploie envers eux toute sa puissance et vient en leur secours. Mais surtout, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu et obtenir le pardon de nos péchés. La guérison et la délivrance des esprits mauvais ne sont rien si nous refusons de profiter du salut éternel que seul Jésus peut nous offrir.
Merci Alain pour cette remarque importante, car préoccupés par nos soucis de santé, nous pouvons en négliger notre relation avec Dieu et oublier notre destin éternel. Alain, je voudrais maintenant aborder le dernier verset car il est étonnant. D'abord, parce que les mauvais esprits se prosternaient devant Jésus et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Ensuite, parce que Jésus leur défend de dévoiler son identité.
Il est vrai que cet incident peut paraître étrange. Que devons-nous en apprendre? D'abord, les esprits mauvais connaissaient la véritable identité de Jésus. Toutefois, malgré cette connaissance, ils œuvrent continuellement contre lui. En effet, ces esprits s'opposent à Dieu par leur influence et leurs constants mensonges, cherchant à égarer et à détruire les hommes. Toutefois, nous apprenons une bonne nouvelle. Jésus est plus fort, plus puissant que ces esprits. Ces derniers se prosternent en sa présence tout simplement parce qu'ils sont contraints de le faire. Jésus est souverain, il commande les esprits et les domine, et leurs jours sont comptés. Notons le bien. En temps normal, ce sont les hommes qui prient devant les esprits mauvais. Ces derniers cherchent en effet à les dominer et ils entreprennent tout ce qui est en leur pouvoir pour manipuler les hommes et les rendre esclaves du mal. Non, vraiment aucun homme ne peut soumettre ni contrôler les esprits. Si donc Jésus peut dominer les esprits, c'est qu'il est réellement le Fils de Dieu. Si les esprits sont contraints de se prosterner devant lui, c'est parce qu'il est véritablement le roi souverain. Voilà une preuve supplémentaire de son identité divine.
Merci Alain. Mais comment expliquez-vous que Jésus ne semble pas vouloir qu'il révèle sa véritable identité, car il est véritablement le Fils de Dieu?
Jésus savait que les Juifs auraient beaucoup de mal à accepter cette réalité, qu'il est en effet le Fils de Dieu. Aussi, il souhaitait que les gens réalisent cette vérité peu à peu, par eux-mêmes, tout en étant témoins de ses miracles et en écoutant son enseignement. De plus, Jésus savait qu'il allait être mis à mort parce que certains hommes s'opposeraient à lui. Il savait également que le moment où son destin devait se réaliser n'était pas encore venu.
Merci. Quelle leçon retenir de ces choses?
Jésus est le Fils de Dieu. Telle est la vérité que Marc désire démontrer tout au long de son évangile. Cette vérité peut choquer, même aujourd'hui. De nombreuses hypothèses à ce sujet peuvent être élaborées comme à l'époque de Jésus. C'est pourquoi j'encourage chacun et chacune à se plonger dans la Bible et à faire l'effort de comprendre son enseignement au sujet du Fils de Dieu, à faire l'effort de saisir aussi la manière dont nous pouvons vivre à la lumière de cette vérité.
Oui, c'est la raison pour laquelle nous étudions l'évangile de Marc. Alain sera de retour la prochaine fois pour poursuivre cette étude et nous vous encourageons tous à être présent au rendez-vous pour mieux connaître Jésus.
Nous remercions Jean-Marc et Alain pour leur participation aujourd'hui.
Ils seront de retour la prochaine fois pour poursuivre cette étude de l'évangile de Marc. Et à présent, nous allons écouter une courte méditation biblique qui s'inspire des psaumes.
Comment être heureux? Cette question reflète l'aspiration de beaucoup. Et avouons-le, tout ce que nous entreprenons dans la vie est motivé par ce désir de trouver le bonheur. Plusieurs psaumes, précisément, contiennent la formule « Heureux l'homme qui… » Formule suivie d'une vérité biblique dont le but est de rendre heureux quiconque la met en pratique.
Ainsi, dans cette série de méditations bibliques, nous allons passer ces versets en revue, en compagnie de Sébastien, pour en retenir les leçons essentielles sur le bonheur. Aujourd'hui, nous allons écouter le psaume 32, versets 1 et 2, que voici.
Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi.
Selon la Bible, le vrai bonheur consiste à connaître Dieu, à écouter la sagesse qui se dégage de son enseignement et à mettre en pratique sa parole. Il y a bien des années de cela, une violente tempête s'abattit dans la région où j'habitais à l'époque. Sa force fut telle que des milliers d'arbres en furent déracinés. Ce matin-là, je devais me rendre au travail et j'ignorais encore l'étendue du désastre. Cependant, je ne tardais pas à le découvrir. Je sortais juste de chez moi quand je vis tout près la route barrée par un arbre qui était tombé. Je dus faire un demi-tour et essayer une autre route, mais rapidement, je me trouvai au sein d'un immense embouteillage. Tout le monde cherchait à se rendre au travail. Or, cela était impossible car d'innombrables arbres déracinés jonchaient toutes les routes et entravaient la circulation. C'est ainsi que de même que ces arbres m'empêchaient d'accéder à mon travail. Nos fautes, nos péchés représentent des obstacles infranchissables qui nous séparent de Dieu. À cause de cette tempête, nous avons tous passé une matinée frustrante, stressante et épuisante. Il en est de même de nos fautes qui, elles, nous éloignent de Dieu et nous rendent malheureux. Deux jours après la tempête, je pus me rendre au travail car la municipalité, armée de gros engins, avait fait enlever tous les arbres qui encombraient les routes. De mes propres forces, je n'aurais jamais pu en soulever un seul. Or, voici une bonne nouvelle. Dieu a pris l'initiative de réaliser ce que moi-même je n'aurais jamais pu entreprendre. Il a choisi de régler le problème de mes fautes. Il a choisi de me pardonner. Dès lors, l'obstacle constitué par mon péché est désormais enlevé de mon chemin. Et ceci parce que Jésus est mort sur la croix. C'est là qu'il y a subi la juste colère de Dieu. C'est là qu'il a porté les fautes de tous les hommes. C'est sur cette croix qu'il a payé le prix de notre pardon. Désormais, parce que nos péchés sont pardonnés, nous pouvons vivre une amitié avec Dieu. Nous pouvons le rencontrer, le connaître, jouir de tous ses bienfaits. Voilà pourquoi le psalmiste, plein de joie, peut s'exclamer « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. »
Merci Sébastien pour cette belle illustration qui nous rappelle toute l'importance du pardon qui se trouve en Jésus-Christ.
Nos deux séries se poursuivront la prochaine fois. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.